Décryptage. Frédéric Genot.
Il y a presque un an, le 8 décembre 2024, Notre-Dame de Paris rouvrait ses portes. Le chantier de la reconstruction, à l'identique, avait duré 5 ans. La cathédrale est un joyau architectural qui a toujours été géographiquement et intimement lié à l'histoire du pays. Aujourd'hui, elle est le monument le plus visité de France. Ceux qui viennent ne sont plus seulement des pèlerins et des amateurs de Victor Hugo, ce sont des admirateurs de la qualité de la reconstruction. Notre-Dame de Paris, le miracle touristique, c'est le décryptage de ce soir. Avec nous, Marie-Hélène Chevrier, enseignant-chercheur en géographie à l'Institut catholique de Paris, auteur de « Espace sacré, tourisme et sécularisation dans les lieux de pèlerinage catholique » à la collection Géographie et Culture de l'Harmattan. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Linda Lenné, rédactrice en chef du magazine L'Écotouristique, co-autrice avec Jean Viard de « Quand le tourisme s'éveillera » aux éditions de l'Aube. Bonsoir.
Bonsoir.
Et merci à toutes les deux d'être en studio. Linda Lenné, peut-être pour commencer, est-ce que l'on connaît le nombre précis, à quelques centaines de milliers près, on va dire, des visiteurs de Notre-Dame depuis un an?
Alors depuis un an, Notre-Dame de Paris a accueilli 11 millions de visiteurs. Donc c'est une performance. D'après d'ailleurs le diocèse, jamais le site n'a accueilli autant de visiteurs.
Et ça, on peut le savoir, pardon.
Néanmoins, en fait, vous vous souvenez peut-être qu'à quelques mois de la réouverture, il était question de 15 millions de visiteurs. C'était les projections. Et si nous ne sommes pas à ce cap-là, qui n'est d'ailleurs pas un cap voulu par l'établissement, c'est tout simplement parce qu'au cours de l'année, il a été décidé de mettre en place une jauge de manière à ce que la visite soit plus apaisée entre les personnes qui viennent pour se recueillir, pour une messe, et celles qui viennent pour admirer le joyau architectural, comme vous le décriviez à l'instant. Et si on se réfère à la période qui a précédé l'incendie, visiblement, nous sommes effectivement sur des chiffres plus importants, même si avant 2019, parfois, il y avait des rapports de l'Office du tourisme de Paris ou de la région de Paris qui évoquaient 14 millions. Alors, un chiffre qui était trompeur, puisque à cette époque-là, on n'avait pas de système de comptage vraiment précis. Visiblement, on comptabilisait également les personnes qui venaient simplement sur le parvis pour prendre une photo ou pour se reposer.
Alors que là, maintenant, on a un portique, on a des idées quand même beaucoup plus précises du nombre de gens qui arrivent.
Exactement. Aujourd'hui, on estime qu'il y a entre 30 et 35 000 personnes par jour. Il y a un système de comptage à l'entrée. Il y a la volonté de gérer les flux comme jamais auparavant.
Marie-Hélène Chevrier, la réouverture s'est faite en plusieurs étapes pour les visites guidées notamment.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que dans un premier temps, les premières personnes à rentrer ont été les particuliers, donc pas de visite organisée à l'intérieur de Notre-Dame, vraiment une déambulation libre avec les outils mis à disposition par la cathédrale pour pouvoir avoir un discours sur l'intérieur du lieu. Puis les pèlerinages, notamment les pèlerinages des paroisses de Paris qui ont chacune été invitées à aller en pèlerinage à Notre-Dame de Paris, puis les diocèses de France, mais aussi les diocèses étrangers en pèlerinage spécifiquement. Puis seulement au mois de juin, les groupes culturels, sachant qu'auparavant des groupes culturels pouvaient venir, mais c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de visite guidée par un guide extérieur à l'intérieur de Notre-Dame. Donc l'explication était faite à l'extérieur et les groupes ensuite déambulaient librement à l'intérieur. Aussi pour, dans une volonté de garder cette tranquillité, comme vous l'évoquiez, et puis de limiter le bruit aussi à l'intérieur de Notre-Dame et de garder la main aussi d'une certaine façon sur le discours à l'intérieur de Notre-Dame.
On a une idée de la proportion entre les pèlerins et les touristes?
Une très bonne question. Il n'y a pas de chiffre officiel dans la mesure où il y a un comptage, mais aucune étude n'a été effectuée pour mieux connaître le public. Visiblement, il y a davantage aujourd'hui de touristes qui viennent pour prendre aussi des photos. Hein. C'est devenu un site touristique à part entière et même un site instagrammable au même titre que le village de Gordes ou Étretat. Donc visiblement, il y a plus de touristes que de personnes qui viennent pour le site cultuel.
Et Marie-Hélène Chevrier, vous disiez également qu'il y a une nouvelles proportions. Enfin, il y a ces gens qui viennent voir le chantier.
Oui. Alors après,
enfin, pas le chantier là, ce que le chantier a donné. Là.
Tout à fait. Oui, on pourrait presque dire qu'on a encore une nouvelle valeur sacrée qui apparaît, puisqu'on a la valeur sacrée évidemment d'origine, qui est la valeur sacrée religieuse du lieu, qui perdure et qui est première. Mais on a aussi la valeur sacrée liée à la patrimonialisation du lieu, donc le sacré de l'édifice en lui-même. Mais aussi peut-être l'incendie qui a créé un traumatisme dans la société, que ce soit française ou mondiale, et l'acte d'héroïsme des pompiers, l'acte de la reconstruction qui est aussi vu comme une forme d'héroïsme et qui peut donner lieu à une nouvelle forme de sacralité, mais qui cette fois-ci serait laïque. Et donc beaucoup de visiteurs qui viennent de manière très respectueuse rendre hommage aussi à cette reconstruction, aux artisans, etc.
Est-ce qu'il y a des nouveautés dans Notre-Dame pour les visiteurs ? Je pense notamment à la chapelle dédiée aux chrétiens d'Orient, il y a à l'autre chapelle pour Saint-Paul-le-Chêne, Marie-Hélène Chevrier peut-être ?
Oui, alors en fait, tout le parcours intérieur a été repensé par la cathédrale, vraiment dans une visée normalement catéchétique. Donc le sens de circulation lui-même a changé, puisque maintenant on part de la porte nord pour aller vers la porte sud, ce qui était l'inverse auparavant. Et avec, normalement, dans l'objectif, l'idée de partir de l'Ancien Testament, de passer au centre de l'Église par la vie du Christ, pour ensuite revenir par l'Église et les saints au fil des âges. Donc ce parcours-là a vraiment été pensé, les titulatures des chapelles ont été changées. Après, le parcours n'est pas forcément très compréhensible, parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'explications écrites qui expliquent ce parcours.
Combien de langues ? Ah pardon, oui, allez-y, oui. Linda Lainé.
Merci. Oui, ce qu'il y a également de nouveau depuis cette année, c'est la notion de pèlerinage. Il y a eu 650 pèlerinages depuis la réouverture de Notre-Dame. Et parfois, ce sont des groupes extrêmement conséquents, jusqu'à 2000 personnes. Et par ailleurs, il y a aussi un système de réservation qui n'existait pas auparavant et qui n'est pas du tout obligatoire, mais qui est simplement conseillé. Donc si effectivement vous voulez anticiper un peu, il est possible d'aller sur le site officiel, de réserver pour une visite le jour même, ou bien le lendemain, ou bien le surlendemain. Toutefois, ce site est très vite saturé. Moi, j'ai essayé des dizaines de fois sans succès, puisque les créneaux étaient pris. Cette semaine, en revanche, pour la première fois, j'ai réussi un même jour à avoir 40 créneaux disponibles, donc c'était comme un miracle.
Voilà, moi aussi, j'ai eu la chance du débutant, on va dire, j'ai essayé cette semaine, et il y a des créneaux, c'est peut-être important de le dire pour les touristes qui peuvent nous aider, nous écouter et venir, à la différence de, genre, penser à la vasque des JO, où là, je n'ai jamais réussi à avoir un créneau. Pour Notre-Dame, en tout cas, on peut en avoir peut-être la veille ou l'avant-veille. Combien est-ce qu'il y a de langues proposées pour les visites à Notre-Dame ? Parce que j'ai cru voir une vingtaine, et également pour les confessions, et j'avoue que ça m'a un petit peu intriguée. Est-ce qu'on peut se faire confesser en 20 langues à Notre-Dame ?
Je ne sais pas le chiffre exact, mais ça n'est pas du tout improbable, puisqu'il va y avoir un certain nombre de chapelains de Notre-Dame qui vont être d'origine diverse, et sans doute aussi des prêtres de Paris qui peuvent peut-être venir confesser à Notre-Dame. Donc je ne serais pas surprise, mais je ne sais pas le nombre exact de langues.
Est-ce que le fait d'avoir... Notre-Dame, comme ça peut être une porte d'entrée pour les catholiques ?
Oui, alors porte d'entrée, ça dépend dans quel sens.
Ou quelqu'un pour revenir vers une certaine foi, on pourrait...
Oui, tout à fait. Alors ça me fait penser à la question que vous posiez sur combien de touristes, combien de pèlerins. En réalité, c'est effectivement très difficile à savoir parce que on n'est jamais soit complètement touriste, soit complètement pèlerin. Donc quand on observe, que ce soit Notre-Dame ou n'importe quel sanctuaire, on observe des visiteurs qui viennent dans un premier temps manifestement comme des touristes. Et puis, petit à petit, au fil de la visite, on les voit qui s'arrêtent quelques instants devant une relique ou qui vont poser une bougie. Donc, à ce moment-là, est-ce qu'ils n'ont pas basculé entre touristes et pèlerins ? C'est tout à fait possible. Et l'inverse est aussi vrai. C'est-à-dire quelqu'un qui vient en pèlerinage qui va quand même vouloir absolument ramener un selfie ou une photo de tel ou tel monument ou espace du sanctuaire. Et effectivement, pour un retour à la foi, il y a des récits de conversion dans Notre-Dame, de Claudel par exemple, mais sans doute que, d'après ce que dit aussi le personnel de la cathédrale, il se vit des choses fortes à Notre-Dame depuis la réouverture. Des conversations, ne serait-ce que des conversations de gens qui redécouvrent des choses de la foi et qui parlent avec des prêtres ou des personnes, des bénévoles qui sont là. de ce qu'ils vivent.
Alors, les travaux avaient été financés en partie par les dons. Il y avait eu 843 millions d'euros. 700 millions, je crois, ont été utilisés pour les travaux. Est-ce qu'on sait comment vont être utilisés les 140 millions d'euros restants ? Point d'interrogation dans vos regards.
Exactement. Sur ce point, je ne pourrais pas vous répondre. En revanche, ce qui est certain, c'est que, comme on le disait, l'incendie a créé un émoi extraordinaire à travers le monde entier. Donc, il y a eu d'abord une période de sidération et ensuite une période de grande générosité. Donc, il y a eu des donateurs de par le monde et cela a permis de reconstruire à l'identique ce joyau de l'art gothique. Et dans les prochains jours, un nouvel appel à dons sera lancé, cette fois pour une tranche de 150 millions d'euros, de manière à poursuivre le chantier puisqu'il n'est pas terminé. Et l'objectif sera notamment de restaurer les extérieurs. Donc on voit que le Notre-Dame de Paris continue finalement dans cet esprit où on veut maintenir la gratuité. C'est un principe assez fondamental. En revanche, on s'en remet aux personnes qui veulent justement apporter leur petite pierre à l'édifice pour que Notre-Dame soit toujours plus belle.
Alors, puisqu'on évoque cette question de la gratuité, on se souvient de Rachida Dati, la ministre de la Culture, qui s'était interrogée sur le fait de faire payer les visiteurs pour éventuellement financer, peut-être pas les travaux, mais en fait les frais de fonctionnement, qui sont plus importants maintenant, hein, je crois, depuis qu'il y a des conditions de sécurité, il y a tout un ensemble de choses qui font que les frais de fonctionnement de Notre-Dame sont plus élevés maintenant. Ça avait provoqué un certain débat, et on avait entendu Marie-Hélène Chevrier, les autorités... dire non, on ne fait pas payer l'entrée dans une église, c'est ça ? C'est oui. Toujours la pollution d'église ?
Tout à fait. Alors après, c'est vraiment un serpent de mer, cette question de faire payer l'entrée dans les lieux de culte. Avant Rachida Dati, on a eu Stéphane Bern, ça devait être en 2017 ou 2018, qui avait fait la même proposition et qui s'était fait assez vite rabrouer par Mgr 23.
Stéphane Bern, on peut peut-être le dire pour nos auditeurs un peu plus lointains, qui est un ancien animateur télé qui s'intéresse au patrimoine, hein, qui n'est pas non plus ministre ou élu de la République.
Et donc effectivement, du point de vue de l'Église, ce serait théologiquement un non-sens, voire un contresens de faire payer l'entrée dans un lieu de culte, puisque dans l'Église, du point de vue de la conception catholique, eh bien, il y a la présence de Dieu à l'intérieur de l'Église. Donc faire payer l'entrée dans l'Église, c'est faire payer l'accès à Dieu, ce qui n'a absolument aucun sens. Ce serait privatiser, d'une certaine façon, l'accès à Dieu. C'est pour ça que l'Église est radicalement opposée et ne changera vraisemblablement pas de position sur la question de la gratuité.
Mais c'est vrai qu'on entend ces derniers temps des réflexions sur la façon dont les sites touristiques peuvent éventuellement apporter un peu d'argent. Vous nous disiez, Linda Lenné, que ce qui se passe à l'abbaye du Mont-Saint-Michel est une expérience peut-être intéressante en ce qui concerne les visiteurs.
Oui, ce qu'on voit en France, c'est qu'il peut y avoir différentes approches. Alors, vous le disiez à l'instant, il y a la loi de 1905 qui finalement empêche de mettre en place une entrée payante pour un lieu religieux, pour une église. Toutefois, à l'abbaye du Mont-Saint-Michel, il y a une approche différenciée. Si par exemple vous venez pour une messe, vous allez sur place, vous avez rendez-vous 15 minutes avant sur le parvis de la croix de Jérusalem. Et à ce moment-là, on vous remet un autocollant participant messe et vous avez un accès gratuit. En revanche, si vous venez pour véritablement visiter l'abbaye du Mont-Saint-Michel et découvrir son architecture, son histoire, à ce moment-là, vous avez une entrée payant de 13 euros. Donc là, on voit que finalement, c'est simplement la visite cultuelle qui est payante. Mais je crois que c'est aussi un cas très particulier. Et je pense que, d'ailleurs, Marie-Hélène, vous êtes mieux placée que moi pour en parler.
Mieux placée, je ne sais pas. Mais le Mont-Saint-Michel est un cas vraiment à part en France, dans la mesure où elle appartient totalement, cette abbaye, aux monuments historiques. À tel point que le sanctuaire, à proprement parler, du Mont-Saint-Michel, n'est pas l'église abbatiale, mais l'église paroissiale, qui est dans le village, l'église Saint-Pierre. Et c'est là, normalement, qu'on rend le culte à Saint-Michel. Mais de fait, tout le monde pense que c'est l'abbatiale. Et donc les moines qui ont été réinstallés à l'abbaye après les années 60, après les célébrations du millénaire, donc un droit d'usage trois fois par jour de l'église abbatiale. Mais eux-mêmes ne peuvent pas rester dans l'église abbatiale en dehors des trois offices qu'ils célèbrent dans l'église. Donc effectivement là, les visiteurs qui rentrent sans payer pour aller à la messe ensuite ressortent par un chemin beaucoup plus court que les autres visiteurs, de manière à ne pas faire le circuit, tout le circuit à l'intérieur de l'abbaye. Mais c'est vrai que là, c'est vraiment lié à son statut de monument de France, qui fait qu'on a ce tarif payant.
D'ailleurs, la gestion est confiée au Centre des Monuments Nationaux.
Oui, c'est ça.
Pour en revenir à Notre-Dame, qui donc, pour l'instant, est gratuite et ça risque de rester un certain temps, on a donc ces touristes qui peuvent rentrer, visiter en même temps que les messes. Il y a trois messes par jour, toujours. Comment est-ce que ça se passe, une messe à Notre-Dame avec cette foule qui est un peu limitée, mais il y a quand même du monde qui passe?
Oui, alors les chiffres des assistances aux messes sont assez impressionnants parce que d'après ce que disait la responsable des publics, Sybille Melamy Brown, il y a à peu près 200 personnes qui sont présentes à la messe de 8h le matin, à peu près 800 à 1000 personnes pour la messe du midi et encore à peu près 600 personnes pour la messe du soir chaque jour. Donc par rapport à la fréquentation habituelle des églises en France, c'est quand même des chiffres assez impressionnants. Et après, la messe se déroule vraiment dans la nef, enfin dans le chœur évidemment pour la célébration et dans la nef pour ceux qui y assistent, et ça n'empêche absolument pas la circulation dans le déambulatoire. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir un brouhaha, mais globalement, les bénévoles sont aussi là pour essayer de bien faire respecter le silence et que tout se déroule de la meilleure façon possible.
Notre-Dame de Paris, c'était le roman de Victor Hugo en 1831, c'est quelque chose qui a sans doute joué pour l'attachement des Français à cette cathédrale. Il y a eu ensuite le film, le dessin animé, la comédie musicale, un ensemble de moments. Et après l'incendie, il y a eu le film de Jean-Jacques Haneau, Notre-Dame brûle, et maintenant une série sur Netflix. Vous le disiez tout à l'heure, Linda Lenné, c'est Instagrammable. Est-ce que tout ça construit de plus en plus un nouveau... de nouvelles images autour de Notre-Dame de Paris qui l'attachent encore plus aux visiteurs?
Il y a un nouvel imaginaire. Je pense qu'il faut rappeler aussi que la reconstruction a été une vraie réussite. Et quand on rentre pour la première fois dans Notre-Dame rénovée, on a ce sentiment de redécouvrir le lieu. La lumière est vraiment très belle. Notre-Dame... est sublimée, la pierre est dorée, alors qu'avant elle était grise. Donc je pense que le site a vu une véritable renaissance. Et c'est la raison aussi pour laquelle Notre-Dame de Paris rencontre un tel succès. Enfin, les chiffres sont quand même assez parlants. Désormais, il y a chaque année presque deux fois plus de visiteurs à Notre-Dame qu'à la Tour Eiffel. Donc c'est tout un symbole. Après, en Ile-de-France, il y a un site qui n'a rien à voir, qui dépasse les performances de Notre-Dame, c'est Disneyland Paris. Donc,
avec est plus... d'autres arguments.
Voilà, ce sont de tout autres arguments, ce n'est peut-être pas comparable, mais voilà, si on regarde l'ensemble des sites tels que les monuments, les musées et les sites touristiques, effectivement, c'est la photographie d'aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle, comme vous le disiez, il y a de nouveaux imaginaires et je pense qu'il faut aussi apprécier le fait que le site soit à ce point remarquable.
Très rapidement, Marie-Hélène Chevrier, cet afflux de visiteurs, c'est quelque chose qui peut durer dans le temps ?
Vraisemblablement oui, parce que justement Notre-Dame bénéficie d'un certain nombre de sacralités, qu'elles soient profanes, religieuses, qui se renouvellent sans cesse avec les imaginaires parfois de la littérature ou du cinéma, qui viennent toujours faire perdurer cette valeur sacrée.
Merci à toutes les deux, Marie-Hélène Chevrier, Linda Lenné. Je remercie également Sigrid Azerwal qui m'a aidée à préparer cette émission, mise en onde par Valentin Vanner. Bonsoir à tous.